Bonsoir à toutes et à tous, et merci beaucoup d'être venus aussi nombreux pour rencontrer Monsieur Barbeyrou, qui nous a fait le grand plaisir de faire un petit séjour en France et durant sa tournée de faire un détour par Bordeaux pour venir nous voir. Donc déjà avant tout, un grand merci.
Mais c'est mon plaisir.
le plaisir partagé. Donc Monsieur Barbeyrou, vous êtes professeur d'histoire médiévale en Italie. Au regard de vos livres, on se rend compte qu'au-delà de la période médiévale, vous vous intéressez beaucoup à l'histoire militaire, avec Waterloo, Le jour des barbares, une histoire des croisades, et plus récemment la bataille des Trois Empires. Justement, ce livre-là, La bataille des Trois Empires, introduisait déjà l'Empire ottoman et son histoire, et notamment son histoire très liée à celle de l'Europe. Et donc on s'est rendu compte en vous lisant dans ce texte que vous cherchiez vraiment à rétablir la vérité au sujet de l'Empire ottoman. Vous essayez également de le mettre de manière égale avec l'histoire européenne, en essayant de présenter à la fois dans les sources choisies et dans la manière de traiter l'événement de la bataille de Lépante, une vision égalitaire et de montrer à quel point ces deux histoires, loin d'être opposées comme on peut parfois l'entendre, étaient au contraire extrêmement liées. Et on en arrive du coup au divan d'Istanbul. Quelles ont été les motivations au départ pour présenter cette brève histoire de l'Empire ottoman ?
Mais c'est, d'abord, bonjour, bonsoir, merci d'être là, merci de m'avoir invité. Les motivations, mais c'est justement la fascination que j'ai ressentie pour cette histoire de l'Empire ottoman que je ne connaissais pas du tout au début. Parce que, on l'a dit, moi je suis médiéviste de mon métier. Moi j'étudie le Moyen-Âge, même si les historiens du Moyen-Âge, peut-être davantage que les spécialistes des autres périodes, se rendent compte très tôt de l'artificialité, si je peux dire, de ces étiquettes qu'on colle aux périodes. C'est-à-dire, le Moyen-Âge est une période très longue, très très longue. Et on nous reconnaît le droit de nous intéresser aux invasions barbares, et on nous reconnaît aussi le droit de nous intéresser à la France de la guerre de Cent Ans. Or, il n'y a rien en commun entre l'époque des invasions barbares et la guerre de Cent Ans. Et pourtant, c'est toujours le Moyen-Âge. Et puis, si on se penche sur le XVIe siècle, il y a des collègues qui font mine de dire « Mais toi, tu es médiéviste, arrête-toi à la découverte de l'Amérique ». Alors, on se rend compte très tôt que ces étiquettes n'ont pas de sens, que l'histoire ne connaît pas de coupure nette. Et on a envie d'étudier ce qui nous charme. Le point de départ, c'est l'histoire militaire. L'histoire militaire m'a souvent permis d'échapper au Moyen-Âge, pour ainsi dire. Et c'est aussi l'histoire militaire qui m'a permis de comprendre combien, parfois, le regard de l'historien est unilatéral. Je m'explique. La généalogie est, je suis arrivé au divan d'Istanbul par le biais de la bataille de Lépante. Et je suis arrivé à la bataille de Lépante après avoir étudié la bataille de Waterloo. Alors, la bataille de Waterloo, sujet formidable. L'historiographie française, jusqu'à il y a quelques années, était très vieillie et très limitée. Et aujourd'hui encore, dans le monde, la version de Waterloo qui domine dans les librairies, c'est la version anglaise. Et les Anglais ont fait des très beaux livres sur Waterloo en considérant exclusivement le point de vue anglais. Lorsque les Français font des livres sur Waterloo, ils sont moins heureux que les Anglais, évidemment, d'aborder ce sujet. Mais quand même, il arrive que des Français font des livres sur ça. Et alors, évidemment, c'est le point de vue français qu'ils essaient de développer. Les Belges étudient les Belges à Waterloo. Les Allemands, récemment, ont découvert que Waterloo, ce n'est pas tellement une victoire anglaise qu'une victoire allemande. D'où des bouquins qui nous expliquent le rôle des Allemands à Waterloo. Il fallait peut-être un Italien pour se dire « Mais c'est quoi ça ? Mais c'est pas comme ça qu'on fait l'histoire. » On écrit l'histoire sans être d'un côté ou de l'autre. Si par hasard je suis français, cela ne doit pas m'empêcher d'étudier la bataille de Waterloo comme un grand événement. Vous savez, comme l'histoire décide les grands événements. 30 000 tués, c'est un grand événement, évidemment. Mais si je suis français, cela ne fait pas forcément que je dois m'intéresser au point de vue français. Cette longue introduction pour dire que quand j'ai décidé d'étudier la bataille de Lépante, Cela a été parce que j'avais commencé par découvrir, en ignorant total, l'histoire de l'Empire ottoman et par être fasciné par cette histoire. Par les échanges ininterrompus entre le monde ottoman et le monde chrétien. Ininterrompu, ça veut dire que aussi lorsqu'on se faisait la guerre, et on se faisait la guerre avec enthousiasme, on se haïssait, on s'égorgeait avec un grand plaisir, mais en même temps, on continuait toujours à faire du commerce. Au plein de la guerre qui ne s'est pas achevée avec la bataille de Lépante, mais qui enfin a vu la bataille de Lépante, au plein de cette guerre, le grand vizir et les pachas du divan, du gouvernement ottoman, continuaient de commander à Venise des lunettes, des cartes géographiques, des outils d'acier qu'on fabriquait pas trop bien apparemment dans leur empire, etc. Alors, comme je suis un historien militaire, j'ai décidé que cette fascination pour l'histoire des relations entre l'Empire ottoman et l'Occident allait prendre d'abord la forme d'un livre d'histoire militaire, d'où la bataille de Lépante. Mais vous voyez que, à ce moment-là, c'était inévitable pour moi de me rendre compte que la bibliographie existante sur cette bataille était tout à fait, comment dit-on, bâclée en français.
Inégale, oui.
Et ben voilà, le point de vue des Ottomans n'était presque pas considéré. Il y a plein de livres sur la bataille de Lépante dont le titre est « Le triomphe de la croix »,« La bataille qui sauva l'Occident », etc. Et les autres, ils étaient là à faire quoi, au juste? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Or, on ne peut pas faire de la bonne histoire militaire sans essayer d'expliquer ce qu'on essayait de faire des deux côtés. Une bataille est toujours le résultat du choc entre deux forces dont chacune a des idées, une vision du monde, des buts. Et chacun essaie d'empêcher à l'ennemi de faire ce qu'il voudrait faire, ce qui rend charmante l'histoire de la guerre. Donc, j'ai fait un livre sur la bataille de Lépante, qui n'est pas, dans un fond, le premier livre sur cette bataille, mais qui est peut-être le premier livre écrit par un historien occidental, en plus avec toutes les limites de quelqu'un qui ne lit pas le turc, moins encore le turc ottoman, et qui donc a dû s'appuyer sur les sources turques traduites dans de langues occidentales. Mais avec toutes ces limites, j'ai essayé de faire un livre qui rendait justice à l'autre côté. Sans prendre parti, pour ou contre, les bons et les méchants, etc. J'ai amassé tellement de matériel intéressant, fascinant à mes yeux de néophyte de cette histoire, sur l'Empire ottoman, que quand on m'a proposé de faire une émission radio en Italie sur ce sujet, je dis, génial, je vais faire ça. C'était une très belle émission, 20 soirées, et après l'émission, je me suis retrouvé avec un livre déjà tout fait.
D'où les 20 chapitres.
Et donc le livre est né de cette émission. Les 20 chapitres du livre, ça représente en effet les 20 soirées de cette émission radio où j'ai essayé de raconter tout ce qui m'avait fasciné dans cette histoire étonnante de l'Empire ottoman.
Alors, je crois que le pari est plutôt réussi, parce que justement, quand on ne connaît rien ou très peu de choses à cette histoire de l'Empire ottoman, eh bien, on apprend beaucoup dans votre livre, et surtout, vous nous donnez envie d'en savoir plus. Donc, je pense que vous avez plutôt gagné votre pari. Alors, justement, le titre, Le Divan d'Istanbul, désigne, comme vous l'avez déjà précisé, le gouvernement. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce mode de gouvernement qui est assez atypique, finalement, à cette époque-là, au regard des autres empires qui existaient déjà?
Tout à fait. Et je risque même d'employer toute notre heure de causerie.
Alors, en bref.
vous allez m'arrêter à un certain moment. Parce que, oui, ça, c'est le noyau de cette fascination que j'ai eue, que j'ai pour l'Empire ottoman, réside justement dans la façon dont cet empire recrutait ses élites, qui fait un contraste total par rapport à l'Europe de l'époque. Je parle du 15e, 16e, 17e siècle, d'accord, l'âge d'or de l'Empire ottoman. Alors, en Europe, en Occident, dans le monde chrétien à l'époque, les élites étaient des élites héréditaires. Ce qui n'empêche qu'évidemment, il y avait mobilité sociale parfois. Quand Jacques Cœur pouvait devenir le grand cœur sans être né aristocrate, etc. Mais c'était presque toujours des exceptions. C'est-à-dire, les ministres d'un roi d'Espagne ou d'un roi de France étaient normalement, le plus souvent, des princes, des grands nobles, des gens qui avaient du pouvoir et de la richesse, même s'ils n'étaient pas les serviteurs de l'État. Et un tout roi, même les rois absolus, même les Louis XIV, étaient obligés de ménager en quelque sorte, ou alors au contraire de combattre cette noblesse, d'essayer de la dompter. Alors un ministre en Occident, c'est toujours quelqu'un qui a un nom, des ancêtres, des richesses qu'il a héritées. C'est une puissance. Dans l'Empire ottoman, les ministres, le grand vizir, les autres vizirs qui font partie du gouvernement, le divan, c'est le nom technique du gouvernement, les commandants de la flotte de guerre, des armées, les commandants des armées, les pachas à trois queues, etc. Presque toujours, ces gens-là, c'est des enfants qui sont nés chrétiens, parmi les sujets chrétiens de l'Empire. N'oublions pas que l'Empire compte une bonne moitié de chrétiens dans sa population, les Balkans, la Grèce, c'est des enfants chrétiens qu'on a enlevés à leur famille au début, dès l'enfance. Plus tard, on nous dit, vers la fin du XVIe siècle, on nous dit, maintenant, on a tendance à les prendre plutôt vers les 17 ans, 18 ans. Régulièrement, le sultan envoyait des officiers, des janissaires dans les villages de ses sujets chrétiens, et rien que les chrétiens. Il choisissait des enfants, il choisissait les meilleurs, évidemment, ceux qui avaient l'air intelligents et robustes aussi, sains, etc. Il les ramenait à Constantinople. Là, on faisait un premier triage. La majorité était envoyée chez des paysans d'Anatolie pour apprendre le turc, pour apprendre à travailler dur. Et après quelques années, ils devenaient des janissaires. Donc, le corps des janissaires, la fine fleur de l'armée du sultan, redouté en Occident, était composé au début, les choses changent avec le temps, mais au début, le corps de janissaires était entièrement formé d'enfants qui étaient nés chrétiens. Mais les meilleurs de ces enfants n'étaient pas envoyés chez les Turcs, comme on disait dans le palais impérial où on se considérait ottoman, pas turc, et où les Turcs, c'était plutôt les rustres d'Anatolie. Les meilleurs de ces enfants chrétiens n'étaient pas envoyés chez les paysans d'Anatolie. Ils étaient élevés sous les yeux du sultan, dans le sérail impérial. Ils vivaient là, ils étaient pages, jardiniers, domestiques. Ils apprenaient cette langue très difficile qui était le turc ottoman, mélangé de persan, d'arabe, etc. Ils étaient élevés sous les yeux du sultan, je le répète. Parfois, certains d'eux devenaient aussi les amants du sultan, parce que les mœurs sexuelles étaient très libres dans le sérail. Et puis, quand la barbe commençait à pousser, ils sortaient du sérail. Et là encore, la majorité devenait des cavaliers de la garde. Mais 1, 2, 3 pour chaque promotion étaient spécialement choisis par le sultan. Il devenait tout de suite pacha, commandant des janissaires, commandant de la flotte, membre du gouvernement. Et là, c'est quelque chose d'étonnant. Ces gens-là devenaient très puissants et très riches. Mais en principe, ils étaient toujours les esclaves du sultan, qui avait pouvoir de vie et mort sur eux. Ils n'avaient pas de famille. Ils avaient été arrachés à des paysans hongrois ou serbes ou albanais. Ils n'avaient pas de famille. Il arrive parfois, et même souvent, qu'ils conservent des attaches à cette famille. On sait qu'ils font, ils recouvrent d'argent et d'honneur leurs parents, les oncles, les cousins, etc. Mais ils n'ont pas de famille dans le sens où les nobles français ou espagnols ont une famille en lignage, des ancêtres. Ils sont seuls, ces ministres. Ils sont les fils de bergers ou de paysans. Ils négocient tous les jours avec les ambassadeurs occidentaux qui, eux, les méprise. Pour les ambassadeurs vénitiens ou français, d'être obligés à négocier avec ces hommes politiques puissants, très sûrs d'eux, et de savoir qu'ils sont les fils de paysans, de bergers. Tandis que moi, l'ambassadeur vénitien, je suis en Venière ou en Morosini. Vous comprenez ça? Ils écrivent chez eux, ils écrivent quel... C'est même dégueulasse d'avoir à traiter avec des gens comme ça. Des gens ignorants, bas, qui n'ont pas un sang noble. Et pourtant, il faut y passer. Là, à mon avis, c'est formidable. Je pourrais continuer, mais c'est l'essentiel, c'est là.
L'essentiel est effectivement là, mais c'est justement la base un petit peu, à la fois de votre livre et de la richesse de cet empire ottoman. C'est justement cette complémentarité, cette complexité dans sa constitution. On peut justement retrouver ça au niveau des religions. La société ottomane est donc musulmane, mais on se rend compte en lisant votre livre que toutes les populations des pays conquis ont la possibilité d'exercer leur culte avec certaines contraintes, certes, mais quand même une liberté beaucoup plus totale que dans le reste de l'Europe. Alors finalement, qui était barbare, qui était tolérant, la question peut être posée. Est-ce que vous pouvez justement revenir sur... la présence de ces communautés religieuses autres que musulmanes et, dans un second temps, les liens étroits entre l'islam et la politique, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire aussi.
Bien sûr, et je commence peut-être aussi par ce doublé qui est barbare, qui est tolérant. Ils se ressemblaient comme des gouttes d'eau, je dois dire, les chrétiens et les musulmans de l'époque, les occidentaux et les ottomans. Ils se ressemblaient dans ce sens que tous... ils pensaient, nous avons raison et les autres ont tort. Nous avons bien compris ce que Dieu veut de nous et les autres sont des chiens infidèles. Nous, on a une civilisation et les autres sont des barbares. On lit les mêmes expressions, les mêmes mots, la même façon de penser lorsque c'est les occidentaux qui décrivent le monde turc, comme ils l'appelaient, ou dans ce qu'on sait que les Turcs, eux, pensaient des occidentaux, des chrétiens. Ils se ressemblent, ils sont très différents par rapport à nous, j'espère. Une autre bonne raison pour ne pas prendre parti d'un côté ou de l'autre. Mais il y a aussi des différences. Et le problème de la tolérance, entre guillemets, les guillemets, il faut les mettre.
Oui, ils sont importants.
Mais le mot tolérance, il faut le mettre aussi. Pourquoi des guillemets? Ce n'est pas la tolérance de l'Empire ottoman qui avait été déjà avant la tolérance de l'Empire arabe, au Moyen-Âge, du monde arabe en général. Ce n'est pas évidemment la tolérance que nous avons appris à connaître avec Voltaire. Ce n'est pas la tolérance du genre « toutes les opinions ont droit de citer et moi je suis prêt à mourir pour que toi tu aies le droit de t'exprimer ». Ce n'est pas ça. Même dans le monde ottoman, au moment le plus tolérant de son histoire, au 15e, 16e siècle, les musulmans sont bien sûr convaincus qu'ils ont raison et que les autres sont des infidèles. Mais ils lisent dans le Coran, et là c'est une différence fondamentale par rapport à la théologie chrétienne de l'époque, ils lisent dans le Coran que même les chrétiens et les juifs, s'ils font des bonnes œuvres, s'ils sont bons, peuvent être sauvés. Ce qui, du point de vue théologique, est important, ça fait une différence. Puis évidemment, les fins points de la théologie, les croyants les oublient souvent, et on ne peut pas imaginer que le croyant musulman moyen respectait les juifs ou les chrétiens, mais quand même, on savait qu'ils pouvaient exister, qu'ils avaient droit de citer. Et dans le Coran, on lit aussi « combattez les infidèles, tuez-les s'ils sont une menace pour la foi, mais au moment où ils se rendent, ne continuez pas. Ils peuvent vivre avec vous pourvu qu'ils acceptent la soumission aux autorités musulmanes. » Donc, tolérance, entre guillemets, dans ce sens que dans le monde arabe au Moyen-Âge, tout comme dans l'Empire ottoman au 15e, 16e, 17e siècle, il était prévu, officiellement prévu, que les sujets pouvaient être chrétiens ou juifs et qu'ils avaient le droit d'exercer leur culte publiquement, avec évidemment, voilà les guillemets, le sens qu'ils étaient des sujets de seconde classe. Évidemment, ils payaient des impôts plus lourds pour avoir le droit d'exercer leur religion. Ils ne pouvaient pas faire de la propagande religieuse. Le fait de bâtir des églises nouvelles, par exemple, c'était difficile. J'ai longtemps cru que c'était même interdit, mais peut-être il y a des interdictions qu'on oublie. Je venais de lire ça récemment, l'église Saint-Louis des Français à Istanbul, qui est aujourd'hui encore le cœur de la communauté française à Istanbul, a été bâti au XVIIe siècle avec la permission du sultan. Donc on pouvait même bâtir des églises nouvelles, ce qui n'empêche que les C'était bien mieux pour les chrétiens et les juifs de ne pas se faire trop voir, de ne pas sonner les cloches, etc. Et l'intolérance était bien sûr répandue parmi la population musulmane. Mais cette situation qui nous paraît peu enviable, enfin, de ces communautés chrétiennes ou juives tolérées, on doit la comparer avec la réalité des États chrétiens de l'époque, où l'existence d'une communauté musulmane et d'une mosquée ouverte au culte était tout simplement inconcevable. Impossible. Et où même les juifs qu'on avait tolérés au Moyen-Âge, pour des raisons théologiques là aussi complexes, même les juifs au XVIe siècle avaient été expulsés d'une bonne partie, des États chrétiens, des États catholiques surtout. Et donc là, on est forcé d'admettre ce qui est toujours un peu choquant en milieu chrétien. En milieu juif, par exemple, il n'y a aucun problème à l'admettre, c'est normal. Les juifs d'aujourd'hui savent que leurs ancêtres voyaient dans l'Empire ottoman un havre de sûreté, de bonheur, au moment même où ils étaient persécutés et pourchassés dans le monde chrétien.
Mais bon nombre, d'ailleurs, venaient se réfugier clairement dans l'Empire ottoman, là où en Italie ils pouvaient être chassés et déconsidérés. Donc c'est assez intéressant de voir justement cette notion un peu de refuge dans un empire qui était qualifié de tout sauf légitime en fait. Donc c'est assez intéressant de voir cela. Est-ce que justement vous pouvez revenir un petit peu sur cet islam pratiqué? Parce que la religion musulmane de cette époque-là n'a rien à voir avec la religion musulmane d'aujourd'hui. La théologie a beaucoup évolué. Et on se rend compte en lisant ce texte que finalement c'est un islam un petit peu accommodé aussi, ou accommodant, selon les cas.
Oui, là je dois dire, je ne suis pas un vrai spécialiste de l'histoire ottomane, vous l'avez vu, mais je le suis moins encore de l'histoire religieuse. Donc ce que je vais dire, c'est vraiment une causerie entre copains, mais vous devez accepter ça. Bon. Alors, mon impression en étudiant ce monde, en général, en tant qu'historien, je crois qu'il faut dire qu'une religion a toujours des textes qui restent plus ou moins les mêmes, tandis que la façon de les interpréter change. Donc, d'être chrétien au 5e siècle, ce n'était pas la même chose que d'être chrétien au 11e siècle. Il y a eu des moments où les chrétiens savaient très bien que leur religion interdisait la guerre, etc. D'autres moments où, au contraire, et tout en étant de très bons chrétiens, on était convaincu que la guerre, par contre, peut être non seulement juste, mais sainte. Aujourd'hui, on est revenu sur la guerre sainte, pas tellement sur la guerre juste, peut-être. Enfin, ça change. Chaque époque a sa façon d'interpréter, d'entendre sa religion. Les chrétiens ne sont pas toujours les mêmes, les musulmans non plus. Et ça change aussi selon les lieux, les régions. Ce monde ottoman est un monde fondé par des Turcs, qui étaient au début des païens d'Asie centrale, qui sont devenus des musulmans très convaincus. On peut même soutenir que les croisades ont eu à l'origine aussi le fait que dans le monde musulman, l'arrivée des Turcs, la substitution des élites arabes par des élites turques au Xe, XIe siècle, a créé une intolérance qui au début n'existait pas. C'est un sultan turc qui en 1009, je crois, fait détruire la basilique de Saint-Sépulcre à Jérusalem, que les Arabes avaient respectée pendant des siècles. Donc au début, les Turcs sont des convertis, et donc probablement aussi plus intolérants que les vieux croyants. Mais là aussi, tout ça change. Au moment où se bâtit l'Empire ottoman, les Turcs ont l'habitude d'avoir des sujets chrétiens, d'avoir des alliés chrétiens, et ils ont beaucoup appris de ces chrétiens-là. Ils ont appris, par exemple, le culte des saints, qui n'existe pas officiellement en islam, ce qui n'empêche les musulmans en général, mais tout spécialement les Turcs, d'avoir un culte pour les tombes des héros, des compagnons du prophète, etc. Et donc le Kapoudan Pacha, commandant de la flotte du sultan, chaque fois que la flotte vogue du port d'Istanbul, s'arrête à Beşiktaş, prier sur des tombes de saints, entre guillemets. D'ailleurs, cette même flotte du sultan, qui est stylée officiellement la flotte musulmane dans les documents publics, mais qui compte une bonne quantité de rameurs grecs chrétiens, la flotte du sultan commence chaque année les opérations le jour de la Saint-Georges. Ce que j'ai lu la première fois dans Brodel, sans y faire attention. Puis après, je suis revenu et je me suis rendu compte de ce que ça veut dire. C'est la flotte musulmane. Qu'est-ce qu'ils ont à faire avec Saint-Georges? Et bon, Saint-Georges est apprécié aussi par les Turcs. D'ailleurs, il n'est plus apprécié par les chrétiens. Il a été rayé du calendrier, je crois. C'est un de ces saints qu'on a découvert, qu'on avait inventé à un certain moment. On n'a pas de preuve de son existence. Mais à la Renaissance, les Turcs identifiaient Saint-Georges avec certains personnages du Coran. Et comme on savait que Saint-Georges protégeait les voyageurs, les navigants, etc., les Turcs étaient bien heureux de commencer les opérations chaque année sous le signe de la protection de Saint-Georges. Donc il y a une religion qui est sans doute une religion musulmane, c'est l'islam, et c'est un islam qui fait la guerre très volontiers aux chrétiens, mais en même temps c'est un islam qui a des aspects quelque peu bizarres, des aspects qui aux yeux des intégralistes d'aujourd'hui apparaîtraient sans doute très discutables.
On a commencé un petit peu à esquisser ces liens et ces relations entre l'Europe et l'Empire ottoman. On constate, vous utilisez vous-même ce mot, qu'il y a un rapport un petit peu schizophrénique entre les deux. Pour quelles raisons il y a cet rapport sans cesse de dualité entre les échanges marchands et la guerre, entre de la jalousie des deux côtés d'ailleurs, pour certaines techniques, pour certains modèles de vie. Voilà, comment on peut expliquer cette contradiction-là?
Expliquer, c'est toujours le plus difficile de mon métier. Je ne sais pas si on va arriver à expliquer, mais on peut essayer de décrire ce que j'ai appelé une schizophrénie. Bon, c'est un mot un peu cheap, peut-être.
Mais enfin, oui, mais qui met assez bien en avant les...
C'est différent dans les deux cas. Du point de vue des Ottomans, la schizophrénie, pour ainsi dire, consiste en ce que, tout en répétant que les chrétiens, les occidentaux sont des barbares, inférieurs de tous les points de vue, on ne peut pas nier qu'ils font qu'ils accomplissent des miracles. Ces lunettes qu'ils fabriquent, c'est formidable. Chez nous, dans l'Empire, on ne le fait pas. Ces cartes géographiques, l'imprimerie, chez nous, on l'a interdite, l'imprimerie, chez nous, chez les Ottomans, je veux dire. Parce que les oulémas avaient des problèmes. Si on commence à imprimer le Coran et on confie cette tâche à une machine plutôt qu'à des hommes, enfin, on a plus vite fait de l'interdire. Ce qui n'empêche qu'on a de l'admiration pour ce qu'on fait chez les barbares, de ce point de vue-là. Et donc, c'est ça. Et aussi, du point de vue de la guerre, les Ottomans sont des grands guerriers, c'est un empire militaire, et pourtant, ils ont beaucoup de respect pour la force militaire des chrétiens, surtout sur la mer. Les Turcs n'ont jamais été un peuple maritime. Ils ont su s'inventer une puissance maritime, même dominer la Méditerranée à certains moments, mais toujours avec un complexe d'infériorité très visible par rapport aux Occidentaux. Dans les rapports des vizirs au sultan, on répète souvent « attention, parce que sur la mer, on n'est pas sûr et les ennemis sont plus forts que nous ». Du point de vue occidental, c'est différent. J'ai l'impression que les élites occidentales, les hommes politiques, les nobles, les rois, l'Église, les intellectuels, n'ont jamais eu de véritable fascination pour leurs ennemis ottomans. Là, le discours du barbare inférieur reste dominant. À quelques exceptions près, il arrive qu'un ambassadeur vénitien, au lieu de répéter « ces pachas, fils de berger, inouïs, dégoûtants », il arrive qu'un ambassadeur vénitien dise « si on faisait chez nous aussi la même chose, de chercher des plébéiens qui ont des bonnes qualités et de donner des postes à des gens qui n'ont pas de naissance mais qui ont des vertus, comme le font les Turcs ». Il arrive parfois, mais c'est rare. Normalement, ce qui domine, c'est le discours des barbares. On apprécie ces barbares parfois, les Turcs, les Ottomans, on les apprécie parfois de façon paradoxale. Par exemple, le discours de la justice. Vous devez savoir que la justice, à l'époque de la Renaissance, ressemblait beaucoup à ce qu'est aujourd'hui encore la justice italienne, hélas. C'est très long. On n'arrive jamais à voir la fin d'une cause. Cela coûte très cher. Tout le monde rigole amèrement sur le fait que la justice est quelque chose qui, pour les pauvres, c'est impossible à atteindre, etc. Alors, on se rend compte tout à coup, c'est Machiavel qui parle de ça, c'est Guichardin aussi, que chez les Turcs, le système est totalement différent. Ils n'ont pas d'avocat, ce qui est déjà formidable. Chez eux, les procès ne durent qu'un jour. Les parties se présentent au juge, au cadi. Le juge écoute et il tranche. C'est formidable. Il tranche à l'aveuglette, évidemment. Mais quand même, dans 50% des cas, il y aura une décision juste. Et d'avoir 50% de procès gagnés par la partie qui méritait de gagner, effectivement, sans frais, immédiatement. C'est le paradoxe, d'accord. Mais Guichardin dit, à mon avis, c'est mieux la justice des Turcs. Et puis, il y a parfois un discours subversif qui prend l'Empire ottoman, le grand ennemi, l'épouvantail, qui le prend comme, un espoir paradoxal. À Venise, les pauvres savent bien que l'État vénitien a été bâti par les patrices, pour les patrices. Le peuple sait très bien qu'il est exploité, qu'il meurt de faim, tandis que les nobles ont tout. Et il arrive que dans des écrits, des chansons qui circulent et que le gouvernement s'efforce d'interdire, on dise « attendez messieurs les nobles, que les Turcs viennent, et lorsque le sultan sera venu, on va voir ». C'est un peu comme on faisait en Italie encore, dans l'après-guerre, quand à l'époque de la guerre froide, quand en Italie le slogan populaire en dialecte romain était « ad aveni baffone ». L'homme à la moustache doit venir. C'était Staline, évidemment. Alors, pas tous ceux qui écrivaient « Ad aveni baffone » sur les murs désiraient vraiment la dictature soviétique, mais l'idée de l'homme à la moustache qui venait régler leur compte aux dirigeants, alors c'est la même chose. Et donc, dans ce sens, cet empire que la propagande officielle construit un épouvantail pour tout le monde et dont tout le monde a peur peut devenir paradoxalement aussi l'espoir des révolutionnaires, des pauvres, des gens opprimés, etc.
Tout à fait. Alors, à partir du XVIe siècle, justement, cet empire commence à faire un petit peu moins peur. Les Européens commencent à parler d'un déclin. On se rend compte qu'on peut tout de même le relativiser puisque l'Empire va encore durer 300 ans. Mais est-ce que le XVIe siècle n'est quand même pas un siècle où il y a un tournant majeur dans l'histoire ottomane, où on peut dire qu'il y a un avant et un après, à la fois dans la structure même de l'Empire ottoman et dans, on va dire, dans son maintien sur l'échelle mondiale?
Du point de vue de la structure de l'Empire, il y a sans doute des changements qui nous donnent l'impression que c'est un peu moins vital. Mmh. Ou tout simplement que certains prêts exemplaires commencent à s'effacer. Ce que je racontais sur la façon dont on choisissait les ministres et on recrutait les janissaires est vrai jusqu'au début du XVIIe siècle. Et puis cela commence à changer. Les janissaires, en principe, ne devaient pas se marier, mais on constate qu'ils le font, qu'ils ont des fils, qu'ils commencent à obtenir que leurs fils prennent leur place dans le corps des janissaires. Et donc, ils sont de moins en moins recrutés avec le système étonnant, dur, mais aussi formidable de la moisson des enfants chrétiens. Être janissaire, cela devient un poste qu'on hérite, et cela change évidemment. Et aussi pour les ministres. À l'époque de la bataille de Lépante encore, fin XVIe siècle, il y a des rapports des ambassadeurs vénitiens de Constantinople qui disent « Le fils du premier vizir a été promu à un poste secondaire en province, il est devenu gouverneur, ce fils d'une province de peu d'importance, mais cela a été très critiqué. L'idée que quelqu'un peut être nommé à un poste quelconque, tout simplement parce qu'il est le fils d'eux, apparaît à l'opinion publique choquant. Et on est à la fin du XVIe siècle. Ce qui est choquant, à un certain moment, devient de moins en moins choquant avec le passé du temps. Avant la fin du XVIIe, c'est déjà normal que non seulement les ministres, mais les grands vizirs forment des dynasties Et donc le fils du grand vizir devient non pas gouverneur en province, mais premier ministre à son tour. Donc cela change, évidemment. On a l'impression de quelque chose de moins original par rapport au début. Ceci dit, le problème du déclin de l'Empire ottoman, de la décadence de l'Empire ottoman au XVIe siècle, est un problème aujourd'hui ouvert dans la réflexion de mes collègues. Et on ne peut pas aborder ce problème en se bornant à l'histoire ottomane. C'est le problème de la décadence du monde méditerranéen. C'est la décadence aussi de l'Espagne, de l'Italie, de Venise, de Gênes. Et alors, là l'opinion aujourd'hui est plutôt bon, dans le sens que ce n'est pas immédiat. Certes, c'est évident. L'Atlantique va gagner de plus en plus de poids. Il y aura un jour où l'Angleterre sera toute puissante et l'Italie ou l'Espagne, ce sera des petits pays de périphérie, mais pas avant le XVIIIe siècle. On a l'impression donc qu'il y a une longue période qui couvre aussi la majorité du XVIIe siècle où cette décadence, nous la percevons parce que nous savons comment cela va aboutir. Quand on connaît la fin de l'histoire, c'est plus facile de détecter des tendances. Mais en réalité, dans le monde du XVIIe siècle, l'Italie, l'Espagne, la Méditerranée et l'Empire ottoman, cela avait encore bien plus d'importance que le Pays-Bas ou l'Angleterre, etc. Mais la tendance avait commencé. La Méditerranée commençait à reculer et le monde de l'Atlantique commençait à surgir. Et à la fin du XVIIe siècle, cela devient tout à coup évident, mais pas avant.
J'aimerais qu'on revienne un petit peu donc, sur la bataille de Lépante que vous avez déjà évoquée à plusieurs reprises, mais de faire un lien en fait, avec d'autres conflits assez importants, et je pense notamment au conflit grec dans les années 1820. Finalement, c'est deux moments importants dans l'histoire ottomane, deux moments où ils ont perdu contre l'Europe. Question un peu provocante, est-ce que l'Empire avait les moyens de gagner contre cette Europe-là ?
Tout d'abord, vous voyez, vous dites qu'ils ont perdu contre l'Europe. Moi, je suis devenu fou pour éviter des expressions comme ça dans mon livre, parce qu'enfin, la question si l'Empire ottoman fait partie ou non de l'Europe n'est pas tranchée.
C'est vrai.
C'était pas pour...
Non, mais...
Excusez-moi.
Vous avez raison.
Non, mais je veux souligner que là, c'est des problèmes très difficiles. Le langage ne nous aide pas. J'ai replié sur les Occidentaux, que je dis très souvent aujourd'hui aussi. Et ce n'est pas satisfaisant non plus, parce que ce n'est pas un mot de l'époque. Les chrétiens, mais les sujets de l'Empire ottoman étaient chrétiens eux aussi en partie. Donc on ne peut pas en sortir. Ceci dit, vous avez commencé par la Grèce. Restons sur la Grèce. Et sur la façon dont on écrit l'histoire. Aujourd'hui, nous savons tous que la Grèce et la Turquie sont deux nations qui n'ont pas de bons rapports. C'est déjà un miracle qu'ils font partie de la NATO tous les deux, mais l'hostilité, et cela depuis le 19e siècle justement, entre Grecs et Turcs est presque, bon, c'est proverbial, enfin. Ce qui frappe et qui choque est que les génétistes, ceux qui étudient le patrimoine génétique des peuples, nous disent que les Grecs et les Turcs ont exactement le même patrimoine génétique. Ils se sont tellement mélangés pendant des siècles qu'il est impossible de les distinguer. Mais les nations ne sont pas faites que de gènes, au contraire. Elles sont faites de leur histoire et de la façon dont elles racontent leur histoire. Alors, en Grèce, évidemment, on insiste beaucoup sur la révolte grecque du début du XIXe siècle qui a donné la vie à l'État grec contemporain. Et donc... on écrit l'histoire, et nous aussi, en Occident, on a tendance à le faire, comme si l'hostilité entre Grecs et Turcs avait toujours été une donnée fixe. Puis, on va voir ce qui se passait au XVIe siècle, et on découvre une histoire qui n'est pas totalement différente, mais qui n'est pas non plus la même. À l'époque de la bataille de Lépante, j'y reviens forcément parce que... Enfin,
elle est essentielle.
C'est la seule époque que je connais vraiment un peu de l'histoire ottomane. À l'époque de la bataille de Lépante, ce qu'on découvre, c'est que les Grecs sont en partie les sujets des Ottomans, musulmans, et en partie les sujets des Vénitiens, catholiques. Alors, là où les Grecs sont les sujets des Turcs, On n'entend que des appels aux Vénitiens pour venir les libérer. Il suffit qu'un drapeau au lion de Saint-Marc se fasse voir sur notre côte et immédiatement la révolte va éclater, etc. Là où c'est le Vénitien qui commande et les Grecs sont les sujets des Italiens catholiques, on entend parler, dans le rapport officiel des gouverneurs vénitiens, que du fait que la population grecque n'a de cesse d'envoyer des gens à Constantinople pour inviter le sultan venir libérer les Grecs de Chypre ou les Grecs de la Crète de la domination haïe des catholiques. Bien mieux les Turcs que les catholiques. Et donc là, on peut bien comprendre, pour des chrétiens orthodoxes, la domination musulmane était lourde et on ne l'appréciait pas du tout. Mais la domination catholique, encore moins. Déjà après la conquête de Constantinople par Mehmet le Conquérant, on découvre que dans l'église grecque, il y a des éléments qui se disent, bon enfin, ça on peut faire avec. Hein, tandis que si c'était les Italiens qui étaient venus à notre secours et qui s'étaient emparés de notre ville, mieux le sultan peut-être. Ceci dit, votre question était sur la capacité de l'Empire ottoman de faire face aux défis. Non, l'Empire ottoman vieillit. C'est un déclin qui s'amorce seulement au XVIIe siècle, je le dis, mais au XVIIIe, c'est évident. Mais c'est évident aussi en Italie ou en Espagne. Il y a la révolution technologique, la révolution industrielle. Il y a des pays qui changent de vitesse. Et les pays qui ne changent pas de vitesse restent en arrière. Par rapport à l'Italie ou à l'Espagne, là, le changement de vitesse est encore moins perceptible. Il y a l'interdiction de l'imprimerie, je l'ai mentionné, c'est important. L'opinion publique que l'imprimerie peut former dans les pays occidentaux est bien évidemment une opinion publique souvent mal informée, en proie à la propagande, d'accord, mais elle existe. On a l'impression que dans le monde musulman, dans le monde ottoman, de l'Algérie à la Serbie, il n'y a pas d'imprimerie et il n'y a pas de véritable opinion publique à l'époque. Et c'est un retard qui attrape aussi les dirigeants. Cette façon de penser que les autres, enfin, sont des barbares et qu'il n'y a aucune raison de s'intéresser à eux pouvait passer au XVIe. Mais quand, à la fin du XVIIIe siècle, on découvre que les gouvernants de l'Empire ottoman, face à la Révolution française, ont une réaction du type... Mais c'est des choses de barbares, enfin, ça n'intéresse pas ces cocardes bleu, rouge, blanc, ça veut dire quoi? Mais mettez vos cocardes, cela ne nous intéresse pas du tout. Et vous voyez que là, le retard devient important. Quand Napoléon débarque en Égypte, c'est comme si quelqu'un venait de Mars. Ils ne savent pas de quoi il s'agit, justement. Donc là, le retard est évident. Il y a une réaction, bien entendu, parce que là aussi, il y a des gens qui disent « Non, là, il faut ouvrir les yeux, il faut se rendre compte que les barbares nous ont dépassés et il faut faire vite. » Et donc, il y a des tentatives de réforme. Mais là, à ce moment-là, pour réformer l'Empire ottoman, ce qui veut dire n'importe quoi, inventer une armée à l'occidentale, mais inventer aussi une université, par exemple. Là, il faut le soutien des Occidentaux. Et les Occidentaux n'ont aucun intérêt à voir cet empire se relever. Au contraire. Et donc, sans ce soutien, toutes ces tentatives de réforme, ou bien n'aboutissent à rien, ou ils n'aboutissent qu'à moitié, on fait des choses. Hein. L'Empire ottoman est toujours, ce n'est pas un pays de tiers-monde, mais il n'arrive jamais à rattraper son retard. Et puis, il y a ce problème qu'au 19e siècle et au 20e, les empires multinationaux ne sont plus de mise. L'esprit du temps va dans un autre sens. Et l'esprit du temps, c'est important. Des empires qui étaient moins arriérés que l'Empire ottoman, par exemple l'Empire des Habsbourg, l'Empire autrichien, a découvert que contre l'esprit du temps, on ne peut pas lutter. Même si on répète sans cesse aux Tchèques, aux Hongrois, aux Italiens, qu'ils vivent paisiblement dans l'Empire, qu'ils n'ont rien à désirer, et qu'on peut leur laisser aussi de l'autonomie, etc., Ce n'est rien, on n'arrive à rien. Au 19e siècle, les gens veulent avoir l'État national. Et ils respirent ça, et ils veulent ça. Et dans l'Empire ottoman, c'est la même chose. Il y a les Grecs, les Arméniens, les Arabes. Et il y a un monde qui dit aux Grecs, aux Arméniens, aux Arabes, c'est l'oppresseur, le sultan, vous devez absolument vous délester de ce poids, vous allez un grand futur devant vous, et les Russes racontent ça aux Arméniens, et les Anglais racontent ça aux Arabes, Laurence d'Arabie, et puis il y a le problème aussi juif, évidemment, la Palestine, l'immigration juive, etc. Et dans ces conditions-là, l'Empire n'a qu'un choix, enfin, et c'est le mauvais choix. L'Empire ottoman choisit de renoncer, l'Empire, les élites turques décident de renoncer à l'aspect multiethnique et multireligieux de l'Empire et de tout parier sur l'identité turque. Et donc, le mouvement des jeunes turcs, etc., et la répression sanglante des minorités, le génocide arménien et l'expulsion des Grecs, etc., qui d'ailleurs est... Il y a aussi l'expulsion des Turcs des Balkans, tout aussi sanglante. C'est l'époque des États nationaux, du nationalisme, et un empire comme l'Empire ottoman ne peut pas survivre.
Et justement, est-ce que la création de ce pays turc, est-ce qu'elle a réussi à préserver un héritage ottoman, ou est-ce qu'il y a eu au contraire une séparation nette au moment de cette volonté d'affirmer au moins une nationalité turque?
Au début, il y a eu un rejet. Au début, séparation nette. On veut se défaire de l'héritage ottoman. Et Atatürk, les réformes d'Atatürk, bon, tout le monde le sait, mais répétons-le, c'est choquant de changer l'alphabet avec lequel on écrit une langue. Ça veut dire que personne, sauf les spécialistes, ne pourra plus lire tout ce qui a été écrit avant. C'est vraiment couper avec le passé d'un pays pour le refaire nouveau. Les interventions d'Atatürk sur la langue, en France, on peut apprécier ça, parce que chez vous aussi, on s'intéresse beaucoup au niveau gouvernemental de l'état de la langue. Atatürk débarrasse le turc des mots perses, arabes, qui avaient fait la complexité et le charme du turc ottoman. Il réintroduit des mots turcs, parfois inventés, pour substituer ces mots étrangers. Donc ce n'est pas que l'écriture, c'est l'alphabet, je veux dire, c'est la langue en général, c'est le vocabulaire qui a changé beaucoup. Atatürk veut aussi se débarrasser du passé musulman de l'Empire. Sainte-Sophie devient un musée. Interdiction du voile. Apparemment, cela réussit. Il y a toujours un élément de violence. Atatürk, c'est un dictateur, plus ou moins, enfin, mais si ce n'est pas Atatürk, c'est l'armée. C'est une dictature militaire ou, à tout le moins, un gouvernement fortement soutenu par l'armée qui n'admet pas d'alternative, enfin. Là, on commence à se dire, si peut-être des choses avaient été allées d'une autre façon, si en 1995, l'Europe avait dit à la Turquie, entrez, vous aussi, vous êtes européens, peut-être les choses auraient été différentes. À ce moment-là, à la fin du XXe siècle, les élites turques désiraient encore, effectivement, voir admis leur pays dans l'Union européenne. Aujourd'hui, peut-être, ils sont moins sûrs que cela soit une bonne affaire. Et alors, le passé résurgit. Résurgit dans la propagande. Et ce n'est pas toujours mal, hein, parce que j'ai vu un film formidable, un péplum, on pourrait dire, un film d'histoire grand public turc, consacré à Mehmet le Conquérant, l'homme qui a fait la conquête de Constantinople en 1453, le sultan Mehmet le Conquérant. Dans ce film... qui retrace la vie du sultan, il y a cette scène formidable. Le sultan a donc fait la conquête de Constantinople. La conquête d'une ville est toujours évidemment un moment... mais il y a des tueries, des massacres, de la peur partout. La population chrétienne s'entasse dans le bâtiment de Sainte-Sophie, dans la basilique Sainte-Sophie. Ils sont tous là, tremblants. La porte s'ouvre. Le sultan est là. Son cimetière ensanglanté à la main, frisson, tout le monde terrorisé. Le sultan sourit, il laisse tomber son cimetière, il s'avance. Quelques femmes qui tiennent des enfants, des bébés, commencent aussi à sourire un peu. Le sultan caresse les bébés, on dirait Hitler ou Staline, et tout le monde commence à sourire, l'atmosphère se relâche, et le sultan fait un grand discours comme quoi la tolérance est la grande valeur et tout le monde peut vivre ensemble. Alors là, un historien, on sourit. Du point de vue politique, ce n'est pas si mal que ça, peut-être, qu'en Turquie, on fasse de la propagande de cette sorte. On réécrit le passé, mais la tolérance dont on avait parlé était là, c'est pas vrai, c'est pas tout à fait inventé. Hein. C'est un peu enfantin, mais le fond est là. Donc l'héritage ottoman, ce n'est pas peut-être ce qu'il peut y avoir de pire aujourd'hui pour le futur de la Turquie. L'alternative qu'ils sont en train d'inventer est donc l'union de la turcophonie, l'union de tous les peuples qui n'ont jamais été ottomans, mais qui parlent turc, les ouzbeks, les kirghizes, donc l'Asie. Et là, c'est une option aussi populaire aujourd'hui, je crois, en Turquie, qui n'a aucun fondement dans l'histoire, si ce n'est l'histoire très ancienne de ces peuples des steppes, mais qui a un charme aux yeux des Turcs, évidemment, aujourd'hui. Et là, les options donc, sont trois. On est européen, après tout, on fait partie de l'Europe, on est un État national, ou alors on reprend la politique ottomane et on devient l'État qui domine le Proche-Orient, vu que l'État n'existe plus dans ce continent, la Syrie, le Liban, l'Irak. Ou alors, on s'invente l'union de tous les Turcs du monde et on devient la grande puissance en Asie, centrale, on prend la place de l'Union soviétique. Là, on va voir de belles.
L'avenir nous le dira. J'ai bien envie de finir sur ça, parce que je trouve que c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Alessandro Barbero, pour ce bon moment. Merci.